Cube Radio.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon vendredi. Je voulais absolument vous parler de cette histoire dont nous parle Michael Nguyen dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Un Montréalais de confession musulmane qui a menacé à répétition ses quatre filles de les tuer si elles osaient enlever leur voile. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que ces filles, dont la plus jeune, 8 ans, portait elle aussi le voile. Donc les filles, à un moment donné, sont en classe et il y a un éducateur qui parle à une des filles et qui leur dit « Ben, j'ai remarqué que tu n'avais plus ton voile » et elle a répondu « Ben, écoutez, moi, ma mère est au courant, mais si mon père le sait, il va me tuer. » L'éducateur a fait un signalement à la DPJ et c'est ce qui a mené à l'arrestation de ce père-là. Je vous lance juste une question. Si l'éducateur avait été plutôt une éducatrice et qu'elle portait le voile, aurait-elle porté plainte à la DPJ? Quand j'ai vu cette histoire-là, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc.
Sophie Durocher.
Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
Vous avez peut-être suivi ça dans les médias traditionnels ou dans les médias sociaux. L'opinion de Jean-François Lisée sur la série La Maison Bleue qui est diffusée à Radio-Canada, une série qui imagine ce qui serait passé si au dernier référendum, les Québécois avaient voté oui pour l'indépendance. Jean-François aime pas beaucoup cette série-là. On va lui parler, ancien chef du Parti québécois, journaliste et auteur. Jean-François, bonjour.
Bonjour, Sophie.
Écoute, c'est assez particulier parce que Hugo Dumas, dans la presse, a écrit un article en disant que tu avais dérogé à la ligne de parti comme si tu étais encore membre du Parti québécois, dirigeant du Parti québécois. C'est un petit peu bizarre. Il n'y a pas de ligne du parti quand on a déjà été membre d'un parti politique, rassure-moi.
Non, mais il n'y a pas de ligne de parti. C'était un sourire, je pense, de dire que
il constatait
que des souverainistes ne voulaient pas écouter la série. Puis moi, j'ai dérogé à la ligne de parti. Il n'y a pas de ligne de parti. Il y a des souverainistes qui l'écoutent. Il y a des souverainistes qui trouvent ça drôle. Ça, j'ai réalisé ça hier sur les médias sociaux parce que j'ai eu un échange assez vif avec Louis Morissette, que j'estime beaucoup par ailleurs. Mais non, donc Hugo Dumas m'a appelé, m'a demandé ce que j'en pensais. Et puis si je l'avais écouté ou si j'avais refusé de l'écouter, moi je refuse jamais d'écouter de l'humour politique. J'adore l'humour politique.
Oui.
Et donc je l'ai écouté, je lui ai donné plus. Ben non, ça, j'ai presque tout écouté malgré la médiocrité de la série. Alors c'est ça qui a déclenché l'ire du producteur et d'un des auteurs, Louis Morissette, parce que j'ai dit écoutez, on peut rire de n'importe quoi. Mm-hmm. Puis on peut être méchant en humour, mais plus on est méchant, plus il faut que ça soit drôle. Sinon, ce n'est que de la méchanceté. Et je suppose qu'on peut faire une série sur un Québec indépendant et qu'elle soit très drôle. Et qu'elle, par exemple, une des très bonnes séries politiques qui est VIP aux États-Unis, donc la vice-président, les gens sont cyniques, les gens sont répugnants. Mais ils sont drôles, ça donne une très mauvaise image de la politique, mais c'est extrêmement drôle, puis c'est pas tous des niaiseux, ils sont intelligents, chacun à leur façon, ils se donnent la répartie, ils se font des coups bas, j'aurais accepté ça, que ce soit des fédéralistes ou des souverainistes, ou peu importe, mais la première chose que je reproche à cette série humoristique, c'est qu'elle n'est pas humoristique, pas pour moi. Écoutez, il y a 800 000 personnes qui l'écoutent. Alors, il y a du monde qui aime ça, hein? Bon, alors c'est sûr. Mais pour moi, le scénario est médiocre, paresseux. C'est paresseux. C'est le premier brouillon que tu aurais fait. Les dialogues sont pas drôles. Tu sais, c'est vraiment... c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Et le problème, une fois que c'est pas bon, c'est que tu te dis, ça représente... la vision de qui? Puis
oui,
ça représente la vision de Jean Chrétien. Jean Chrétien aurait pu écrire le scénario. Le Québec indépendant, c'est un échec. Il est dirigé par des incapables. D'ailleurs, le vice-président est analphabète. Puis 60% des Québécois veulent revenir au Canada. Je veux dire, c'est exactement la vision de Jean Chrétien.
Oui.
Alors, ce qui reste, c'est quelque chose de pas drôle, à mon avis, mais je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui trouvent ça drôle, en tout cas, à mon avis, pas drôle, mais qui charrie une vision très négative de ce que serait le Québec souverain. Puis 40% des auditeurs de Radio-Canada sont indépendantistes. Alors, ils se font dire, votre rêve, c'est ça marchera pas parce qu'on est trop débiles pour avoir un pays.
Ouais, mais je vais juste évidemment je ferai pas une entrevue aujourd'hui avec Louis Morissette parce que il m'aime pas puis je veux dire jamais il m'accorderait une entrevue. Donc je veux juste quand même lui donner un droit de réplique d'une certaine façon parce que vous êtes pogné en bon québécois sur Twitter. Alors voici ce qu'il a écrit hier. Il a dit « La Maison Bleue est une satire, un monde parallèle. Je sais bien que la nature du projet amène des divergences d'opinion et des critiques, mais de qualifier notre travail de médiocre et de sous-symphorien est malhonnête et mesquin. Un peu d'autodérision, s'il vous plaît, Jean-François, lisez. » Alors, je pense que c'est un débat peut-être plus large que juste cette série-là, c'est de réfléchir à c'est quoi comme... Chaque individu, évidemment, va regarder cette série-là d'une façon différente. Moi, je dois te faire une confidence. J'ai fait, il y a plusieurs mois, une entrevue avec Guinadon, qui joue le rôle, donc, du premier ministre d'un Québec indépendant. Et j'étais très mal à l'aise parce que j'avais demandé une entrevue avec Guinadon avant d'avoir vu la série. Et une fois que j'ai vu la série, que je m'apprêtais à faire l'entrevue, je trouvais ça très gênant parce que je pouvais pas lui dire « je trouve pas ça drôle puis je trouve pas ça très bon ». C'est toujours très gênant de faire une entrevue avec quelqu'un dans ces circonstances-là. Et c'est pas que Guinadon joue mal, c'est juste qu'il a très, très peu de matière intelligente à se mettre sous la dent, ce qui est un gaspillage parce que c'est un excellent comédien. Mais de façon plus générale, c'est que ça dépeint un peu les Québécois comme des tapons.
Puis, bon, ça fait partie de notre culture aussi de s'auto-dénigrer dans nos comédies.
Oui, parce que les bougons, c'était ça aussi, là.
Oui, oui, mais les bougons, moi, j'aimais ça. J'ai aimé les bougons, j'ai aimé la petite vie. Je veux dire, oui, on rit de nous. Ben, les bougons, ils étaient très intelligents. Là, écoutez, non, mais ils c'était des fraudeurs de première.
Oui.
Non. Puis pour Louis Morissette, ben, il faut dire que son premier tweet, ce que tu as lu, c'est son deuxième tweet.
Ouais.
Son premier tweet, c'était « Je respecte votre opinion », il me parlait à moi, « Vous connaissez en médiocrité ».
Oui.
Alors,
ben, je voulais pas le... Ouais.
On sentait que c'était... Ça venait de son fond. Là, il avait été très meurtri par mon utilisation du mot « médiocrité ». Sur son fil Twitter, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était très très exagéré de sa part de dire ça, mais je comprends que dans quand tu as travaillé sur un projet, tu te fais dire ça, ton premier mouvement, c'est la colère. Mais écoutez, je veux dire, comme je lui ai dit par Twitter, il n'est pas médiocre, lui. Le film Le Mirage, la série Plan B, c'est de grande qualité, puis je lui avais dit personnellement, Mirage, c'est un des meilleurs films, je trouve que c'était une vision des choses, la sensibilité,
j'avais adoré moi
là-dedans.
Aussi. Ouais.
Bon, alors donc, j'ai dit, c'est justement parce que je ne vous sais pas médiocre que c'est si décevant, ce film-là. Oui, on a tendance à se montrer comme des idiots, mais lorsque... Puis là, c'est Radio-Canada qui aurait pu se poser la question. Là, on va faire une série qui montre une option politique comme étant dirigée par des idéaux. OK?
Oui. Ben alors, c'est là que ça devient intéressant. C'est que c'est pas n'importe quel diffuseur. C'est sûr que le fait que ce soit Radio-Canada, qui est une entreprise fédérale payée avec l'argent de tous les Canadiens, admaré ou secoué, admaré, c'est là que le bât blesse. Parce que c'est sûr que les dirigeants de Radio-Canada peuvent pas dire c'est une série comme une autre. Je veux dire, c'est un scénario où on imagine à quoi ressemblerait un Québec indépendant. Et la réponse, c'est une gang de tapons qui sont pas capables de trouver leur propre derrière dans un sac de papier brun.
Exact. Alors, on sent que non seulement il n'y a pas eu d'hésitation, mais la série a été renouvelée pour une
deuxième saison.
Hein?
Ouais.
Bon. Alors, et bon, c'est parce que il y a du monde qui l'écoute. Hein? On doit s'incliner devant la cote d'écoute. Elle existe. Bon, mais je me souviens de tu sais, Louis de Funès quand il faisait sa série Le Gendarme,
oui.
Dont les derniers épisodes étaient épouvantablement mauvais. Dont le gendarme et les extraterrestres, je veux dire, ça a pris une demi-heure à écrire dans un bar. Bon, mais tout le monde est allé parce que c'est Louis de Funès et Le Monde avait écrit une critique de une critique d'un paragraphe en disant contentons-nous de constater qu'il y a un public pour ce genre de film. C'était ça la critique. C'est rien d'autre.
Mais il faut dire aussi que tu t'en es pris à quelqu'un qui a quand même un ego assez... je veux dire, Louis Morissette a très bon jeu de te dire que tu devrais faire preuve d'autodérision. Lui est incapable de la moindre autocritique. C'est quelqu'un qui a une peau hyper sensible, qui règne quand même en grand maître à Radio-Canada. Écoute, KO TV produit, écoute, la quasi-totalité des émissions de Véro.tv, dont on ne connaît d'ailleurs aucun chiffre, soit sur le budget qui est alloué, soit sur les codes d'écoute de Véro.tv. Il emmène très large. Il y a beaucoup, beaucoup de séries produites par KO TV, documentaires, séries et tout ça, qui sont diffusées à Radio-Canada. Donc, c'est un petit peu comme si tu étais... tu t'en étais pris un intouchable, là. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est un petit peu soupe au lait quand même, Louis Morissette.
Oui, mais moi, je les collectionne, les intouchables. Hein. On se souvient que je m'en étais pris à Pierre-Carl Péladeau. Oui. J'ai déjà contredit publiquement Jacques Parizeau. Évidemment, Robert Bourassa, on s'en souvient. Donc, moi, je défends la liberté d'expression, y compris la mienne. Alors, non, et puis ça m'empêche pas d'avoir de l'estime pour lui, ça m'empêche pas de savoir que c'est quelqu'un d'important dans notre écosystème culturel, et sa contribution, on peut la débattre, mais elle est importante, elle est là, importante, elle a de la valeur.
J'ai pris sa défense à plusieurs reprises, justement, quand il avait fait le film Le Mirage, et que le seul prix qui avait été gagné, c'était pour Christine Beaulieu, qui était extraordinaire dans ce film-là, mais je ne comprenais pas que ça n'ait pas gagné meilleur film, meilleur scénario, je veux dire, il y avait plein de bonnes choses, et j'ai totalement pris la défense de ce film-là, je nie pas son talent, au contraire, ni son talent à accepter la critique ou les commentaires négatifs. C'est juste ça.
Ben, ça s'apprend. Hein?
Ouais.
Alors moi, j'ai toujours dit que tous les journalistes devraient, là je prends du point de vue du politicien, tous les journalistes devraient avoir un article sur eux pour se rendre compte de ce que c'est que de perdre le contrôle de son image publique.
Mm-hmm.
Parce que au début, ben, toi tu en as eu un certain nombre, mais la plupart des journalistes n'ont jamais eu d'articles qui les critiquent. Et la première fois que ça t'arrive dans ta vie, ça oblige à développer un muscle que tu ne pensais pas que tu avais. Ça dépend aussi du niveau de la critique, mais c'est parfois un peu traumatisant, tu sais, de dire ben là, c'est pas moi qui l'ai écrit, j'ai pas pu contrôler ce qui s'est dit, il y a des choses qui sont pas vraies, puis ça devient extérieur à moi, tu sais, c'est très particulier. Alors, on s'habitue petit à petit à lire des choses, puis là, quand on est en politique, ben, c'est tous les jours, c'est comme si on avait une pièce de théâtre quotidienne avec ses critiques le lendemain dans le journal, tous les jours, c'est assez particulier.
Oui, c'est assez particulier, en effet. Mais je veux juste revenir sur, donc, l'essence même qui est ce scénario d'un Québec indépendant où la majorité des gens sont des crétins, puis les ministres sont des ploucs. Si cette série-là, imagine, avait été faite au Canada anglais, si ça avait été CBC et non pas Radio-Canada qui l'avait produite, imagine... Au Québec, les gens auraient crié au Québec bashing, auraient dit « Voyons, c'est effrayant, comment se fait-il que la CBC se moque de nous comme ça, elle nous dépeigne comme des ploucs? » Ben là, on n'a même pas besoin que ce soit des anglos qui nous tapent dessus, on est capable de se taper dessous nous-mêmes, on est capable de s'autopelure, de bananiser, comme disait ton ami Jacques Parizeau. Alors, c'est ça, c'est là que le bas blesse, c'est que c'est même pas... on n'a même pas besoin du magazine McLean's pour nous dire qu'on est les rois de la corruption, on se le dit à nous-mêmes.
Oui, oui. Mais encore là, moi, ma nuance, c'est si c'était drôle...
C'était drôle,
si c'était
voilà.
Fin, si c'était, tu sais, si on en tirait un réel plaisir, bon, je dirais bon, ben écoute, tu sais, bon, c'est drôle. Mais comme et je me demande, bon, est-ce que c'est notre biais? Est-ce que c'est parce qu'on est des souverainistes qu'on la trouve moins drôle? Moi, je suis quand même assez bon public, tu sais. Je l'ai écouté, Louis de Funès et les extraterrestres. Je suis assez bon public, mais peut-être que ma carapace n'est pas assez forte pour trouver ça drôle. Mais je me demande aussi, est-ce qu'on va avoir la Maison Rouge où là, ça va être une gang de fédéralistes qui sont en train de, je sais pas moi, faire un programme de commandite pour vendre des drapeaux du Canada, puis qui se font avoir par leurs propres amis dans des compagnies de relations publiques qui volent de l'argent. Puis qui la mettent dans des enveloppes. Je veux dire, il y a peut-être du matériel dans le paysage pour faire une série drôle sur la corruption libérale et fédérale, tu sais.
Mais ça, c'est excellent ce que tu poses comme question, parce que si, mettons, toi, Jean-François Lisée, t'écrivais cette série-là, quelle serait la réaction des dirigeants de Radio-Canada qui sont chummy-chummy avec Justin Trudeau qui leur a donné un financement de 450 millions sur 5 ans en plus du 1,2 milliard que le Radio-Canada reçoit déjà? C'est une excellente question.
Que ça vienne de moi. Je suis un ancien chef du PQ, mais...
Non, mais mettons...
Si Louis veut m'appeler, hein? Si Louis veut m'appeler, je peux, avec un nom d'emprunt, l'aider à écrire cette série-là, puis on verra si elle sera
acceptée. La Maison Rouge. C'est très bon. Et on pourrait, écoute, imagine, dans cette série-là, on aurait un premier ministre dont la femme, la mère et le frère ont donné des conférences à fort prix pour un organisme qui pourrait s'appeler Oui Oui Charity, et que cet organisme-là recevrait des millions de dollars de financement du gouvernement pour gérer un programme pour donner de l'argent aux jeunes Canadiens. Et les gens diraient, voyons, arrête, pousse pas, vous avez, qu'est-ce qu'il a fumé ce scénariste-là? C'est pas crédible, voyons, c'est exagéré.
Voyons donc, faut que ça soit vraisemblable un petit peu, Sophie, là, tu sais, essaye de rester proche du réel.
Ben oui, un premier ministre, mettons, qui serait allé aux frais de son ami multimillionnaire sur l'île privée de son ami millionnaire. Je dirais, tu pourrais écrire ça, puis les gens diraient, ben voyons, c'est pas crédible, Jean-François.
Et qui va dans un autre pays, puis qui se déguise tous les jours avec...
Sa femme, puis ses enfants se déguisent, puis se mettent même un petit bindi rouge, là, sur le front. Puis les gens diraient, ben voyons, vous exagérez, c'était possible. Personne est assez plouc pour se placer à trois reprises dans des cas flagrants de conflit d'intérêts. Ben voyons, ça n'existe pas. Écoute, je pense qu'on va l'écrire ensemble, la série Maison Rouge, Jean-François.
On a beaucoup d'idées, ouais.
Bon, est-ce qu'il y a une réconciliation en vue avec Louis Morissette?
Ah ben, on n'est pas des amis, là. On s'est croisés trois fois dans des événements publics, alors c'est pas indispensable. Mais moi, je vais continuer à écouter ces productions avec toujours l'esprit ouvert. Puis j'ai la certitude que la médiocrité de la Maison Bleue est une exception dans son œuvre. Voilà.
Jean-François, est-ce qu'il y avait un autre sujet dont tu voulais nous parler aujourd'hui?
J'ai aimé parler d'Erin O'Toole qui a vu la lumière sur la question du rapport d'impôt unique.
Oui. Alors, rapidement, il te reste une minute.
C'est extraordinaire parce que les conservateurs ont fait leur campagne au Québec en 2018 en promettant le rapport d'impôt unique. Andrew Scheer a été remplacé par Erin O'Toole, qui a fait sa campagne au leadership au Québec en proposant le rapport d'impôt unique. Et là, pour une rare fois, un parti d'opposition rompt sa promesse électorale.
C'est fou.
Ça, c'est très innovateur. Un parti d'opposition a fait une promesse électorale et dans l'opposition, la rompt en faisant en sorte de s'abstenir dans un vote dans un comité des communes qui fait en sorte que la majorité qui est contre, c'est les libéraux, réussissent à battre la proposition. Alors,
c'est assez particulier. Alors, on pourrait peut-être inclure ça dans Maison Rouge. On va peut-être écrire là-dessus. Et quand on va écrire Maison Rouge, écoute, faut qu'on se laisse parce que vraiment, j'ai tellement débordé. J'ai débordé 3 minutes, là. Alors là, on va pénaliser les prochains invités. Merci beaucoup, Jean-François. Bonne fin de semaine. Puis si jamais tu te réconcilies avec Louis Morissette, je veux un selfie. Merci beaucoup, Jean-François.
Salut.
Ancien chef du Parti québécois et auteur récemment du livre « Guerre froide, PQ sur les espions étrangers au Québec ».
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
S'il y a une chose qui est importante, qui est vraiment la priorité quand on est un artiste en 2021, mais je pense que ça a toujours été le cas, c'est la liberté. Ben, il y a certains artistes qui considèrent que, avec ce climat de rectitude politique, ben, il y a de moins en moins de liberté. Et c'est pour ça que mon prochain invité a décidé de prendre les grands moyens, de prendre le taureau par les cornes et de créer son propre médium, en fait, son propre média, son propre diffuseur. C'est l'humoriste bien connu Michel Courtemanche qui lance ces jours-ci une plateforme de liberté totale, comme à TV. Bonjour, Michel.
Hey, écoute, t'es une des premières qui le dit comme faux. Comme à TV. Parce que tout le monde dit de ce temps-là, coma TV. Il faut faire attention entre la maladie, l'accidenté et la joie de vivre.
Oui, parce que, mais ça pourrait être aussi coma en anglais, c'est un point final. Non, à moi, c'est une virgule, pardon, non, c'est une virgule.
Oui.
Ouais,
mon Dieu, ça... quel impair! Tu vas sûrement avoir des témoignages là-dessus. Ah non, il y a quelqu'un qui m'appelle.
Ah, oh, c'est oui, pas grave. Dis-leur que t'es occupé avec Duduche à Cube Radio. Ouais. Alors Michel, est-ce que j'ai bien présenté, c'est-à-dire que en effet, c'est un souci de liberté qui t'a mené à mettre sur cette plateforme-là sur pied?
Oui, ben c'est ça. En création, c'est bien important qu'on n'ait pas d'autocensure, donc d'écrire librement ce qu'on veut faire. Et avec les médias traditionnels, c'est beaucoup plus difficile, c'est-à-dire que ton coefficient d'or qui est à 100% au début se retrouve à la fin des fois à des 20-25% quand le produit passe à la télévision. Donc c'est tout du produit standardisé, je dirais, qui passe à la télévision. Et moi, j'ai comme on peut plus vraiment rire de tout, ça a l'air, là. Donc, à la télé, sont très frileux, à la radio, dans les journaux, dans les magazines, dans ce que tu voudras. Moi, j'ai comme ce souci-là que faudrait peut-être créer un endroit où il est permis, justement, de s'exprimer et de faire les choses comme on a envie de les faire et non pas comment on a envie que les autres veulent qu'on fasse, si c'est jamais.
Mais as-tu des exemples précis de cas? Bon, évidemment, on pense tous à cet avertissement, les épisodes de La Petite Vie qui avaient été retirés, puis les avertissements qu'il y a avant La Petite Vie. Mais toi, ça, de quelle façon t'as été victime de ça ou t'as été impacté par cette espèce de rectitude politique de on peut plus rien dire?
Ben, c'est pas tant, on peut plus rien dire. Dans mon cas, c'était de la façon que je voulais dire les choses et dans quel contexte. J'ai travaillé sur une série qu'on va tourner bientôt, de toute façon, pour Comme à TV. Là. J'avais écrit une série qui se passait sur un plateau de tournage d'une émission de télévision. Okay. Et les diffuseurs étaient très frileux. C'est pas que l'idée était pas bonne, c'était que les diffuseurs... disait que les gens n'étaient pas intéressés à savoir comment se comportaient les gens sur un plateau de tournage et quel type d'humour on en retirait. Alors, j'ai quand même travaillé 4 ans là-dessus. Je l'ai proposé à plein de producteurs qui me disaient à peu près la même chose, qui voulaient modifier les choses, et j'en voyais pas vraiment l'utilité, parce que surtout que, à mon avis et l'avis des autres, c'était bien bon, c'était bien drôle, là. Mm-hmm. Mais quand tu arrives devant les diffuseurs, ben eux autres sont frileux par rapport au marché qui représentent, leur clientèle, surtout les publicitaires qui se trouvent sur les réseaux. Alors, il fallait se plier à un paquet de conditions qui n'avaient plus de bon sens. Et puis, en plus, au bout de la ligne, tu as les avocats aussi qui s'en mêlent pour te dire ça, non, ça, tu pourras pas, ça, tu pourras pas, ça, tu peux pas rire de ça. Puis c'est tout de l'humour pris hors contexte, un peu comme ce qui est arrivé avec Mike Ward. Quand on comment je dirais, quand on a dit ces textes en cours, on les sort de leur contexte, on n'a plus le mic word qu'il y a dedans, puis l'interprétation. Alors, ça m'a beaucoup découragé, parce que quand tu arrives devant le diffuseur, il n'y a plus rien après. Mm-hmm. Il n'y a plus de vie, ça meurt là. Et ce qui est épouvantable, c'est que c'est le même nombre d'heures de travail pour un succès que pour un flop. Fait que tu sais pas ce que ça va.
Oui.
Non, mais c'est vrai, tu sais pas ce que ça va donner au bout de la ligne. Alors, puis d'argumenter aussi, tu sais, de dire, ben non, mais c'est pas ça l'émission, c'est vraiment une histoire d'amitié entre deux chums qui travaillent sur un plateau de tournage. Ouais, mais ça, les gens, ils en veulent pas, puis...
Mais je trouve ça très intéressant, Michel. Je trouve ça très intéressant parce que t'as dit deux mots clés. T'as dit les publicitaires et t'as dit les avocats. C'est un petit peu les deux angles qui font mal en ce moment. Les publicitaires, parce que c'est.
Il y en a un troisième, c'est les assurances.
Ah oui.
Eh ben oui. Pour erreur et omission, ou pour patati patata, tout d'un coup que tu as un propos raciste, tout d'un coup que tu faut que tu ramasses en cours, tatata. Alors, ces trois personnes-là, je dirais, ou en tout cas, ces trois formations-là, c'est ça qui fait que... Mais je pense que le plus important, c'est surtout les publicitaires, parce que c'est eux qui font vivre la télé. Alors, c'est pas une télévision. Puis ce qui est absurde aussi, c'est que c'est de la télévision, mettons, nationale, et puis tu payes ces gens-là pour qu'ils te disent non. C'est ça l'absurdité un peu, je trouve, de la télévision au Québec, c'est qu'on n'a pas les moyens de nos idées. On veut faire comme dans les autres pays, mais on n'a pas les moyens. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut emprunter aux diffuseurs, et il faut emprunter au gouvernement aussi, mais là, tout le monde tête après le même toton pour avoir de l'argent. Alors, c'est vraiment...
Attention, parce que la Ligue des totons va s'en prendre à toi, là. Fais bien attention à ce que tu dis, Michel Courtemanche. Tu parles de publicitaire, puis ça me fait penser une controverse qu'il y a eu récemment qui, moi, m'a jeté à terre.
Ouais.
Et je suis curieuse d'avoir ton opinion là-dessus, parce que ça concerne aussi un humoriste. C'est quand Martin Matt, à la sortie, enfin au tout début de la pandémie, avait fait une publicité pour Maxi où il était vraiment gros. Et c'était une blague, évidemment, sur le fait qu'on a tous grossi, on a tous pris du poids pendant la pandémie. Et évidemment, il y a des gens qui l'ont accusé de faire de la grossophobie. Et Maxi, pour pas le nommer, a décidé de retirer la publicité. Est-ce que tu penses que Maxi aurait dû...
Donc, c'est encore plus frileux que la télévision, les publicitaires, parce que moi, il y a une époque où j'étais porte-parole d'un yogourt qui s'appelait Danone.
Ouais.
En signant le contrat, je me suis rendu compte que le pot de yogourt était beaucoup plus important que moi. C'est-à-dire que j'avais plus le droit d'avoir d'opinion politique, d'opinion sur l'avortement ou des affaires
qui
concernent tous. Oui, t'es muselé à partir du moment où tu endosses un produit, tu deviens juste une image. Tu sais, t'as pas de fond, t'as pas de... c'est vraiment là... puis je me rappelle aussi, Martin Matt, à la Saint-Jean, avait porté des propos un peu indépendantistes ou péquistes, ou je me rappelle plus trop quoi. Et le commanditaire qui travaillait à l'époque avec lui avait comme un peu menacé de le retirer, tu sais, de dire, mais là, attention, tu peux pas vraiment dire ce que tu veux. Alors, mais la grossophobie, moi, c'est un nouveau terme que j'apprenais, là. mais j'avoue que moi, j'avais trouvé ça bien drôle, là, parce que...
Ben oui, ben moi aussi.
Le fait qu'il avait engraissé, peut-être que, je sais pas, aliment, tu sais, il aurait pu rester la même grosseur, monter sur une balance, puis dire, j'ai pris 20 livres de plus, puis ça aurait passé, là, tu sais. Mm. Mais là, c'est le fait que par computer, on l'a grossi. Là, bon, ça y est, c'est dangereux de devenir gros, je suis un gros, je vais en parler. Ben ouais, ben c'est correct, tu sais, mais faut comprendre le contexte, faut comprendre la joke, il faut comprendre, tu sais, c'est comme Mike Ward avec le petit Jérémy, je veux dire, moi j'ai vu le sketch sur YouTube, et tout le long j'ai ri, sachant c'est quoi le punch qui s'en venait, je trouvais que la montée était extraordinaire, c'était bien écrit, il défendait même le petit Jérémy dans son texte, puis c'est à la fin qu'il fait une jambette à la Mike Ward pour démystifier ça, qui était très, très drôle, puis t'entends à peu près 1500 personnes dans la salle rire en même temps, mais là, tu sais, on est en train de museler le rire, c'est pour ça que comme à TV, on dit « libérez votre rire », parce que c'est des fois, on rit parce que, mais on se retient parce que c'est pas correct.
On est gêné de rire.
Pas vraiment c'est pas correct. Mais on fait attention, faut pas rire de ci, pas rire. Si c'est drôle, Carlis. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter là d'aseptiser puis de tout passer à l'alcool à fiction, là, tu sais.
Ouais. Ben oui, ça fait du sens, ben certainement. Pourquoi ça ferait pas de sens? Non, mais de toute façon, regarde, on est tellement écœurés. Moi, écoute, je pourrais écrire 12 chroniques par semaine pour dénoncer le fait que c'est des cas de censure ou de micro-censure ou de...
La meilleure, ça a été les Manon. Je sais pas si tu te rappelles de ça.
Les Manon?
Pèse sur le piton, Manon. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Là, il y avait l'association des Manons qui avait fait pression là, pour qu'ils arrêtent de dire ça. J'ai trouvé ça fabuleux.
Vraiment. Mais je ne connaissais pas cette histoire-là. T'es sûr que c'est pas une joke inventée, ça?
Le réalisateur du Bye Bye, là, comment il s'appelle, vite fait, là?
Guillaume L'Espérance, non? Ça, c'est le producteur, là, Simon Olivier Fecteau.
Simon Templar, voilà.
Oui.
Simon Olivier Fecteau, qui avait fait une joke sur les Alains. Et puis, il y a l'association des Alains qui s'est plaint. Il dit, mais voyons donc, Simonac, il n'y a plus personne qui a le sens de l'humour. Le sens de l'humour, c'est la capacité à être capable de rire de soi. C'est ça, le sens de l'humour. Là, si tu n'as plus ça, ben c'est que tu as un problème à régler. Mais tu sais, règle-le pas sur la table de même, puis faire monter une montagne de je sais pas quoi, là, d'arguments là, qui ont aucun sens et qui n'aura jamais de gagnant, d'ailleurs.
Alors, je vais te poser plusieurs questions en rafale. Sur ta plateforme comme à TV, vas-tu rire des religions? Vas-tu rire des personnes transgenres? Vas-tu rire des gens non-binaires? Vas-tu rire des femmes? Vas-tu rire... est-ce que tout va être permis?
Ben, en fait, c'est que moi, je me fie au gros bon sens des gens qui vont nous proposer du matériel. Si c'est juste des jokes sexistes ou racistes gratuites, ça m'intéresse pas, je trouve pas ça drôle. Mm-hmm. Si c'est habilement amené avec une plume complètement différente et des gens qui le jouent et qui ont fini par comprendre qu'on rit des gens qui rient du sexe opposé ou tu sais qu'on rit des colons en fait un peu comme mon Dieu je vais ramener ça loin là, un peu comme Yvon Deschamps faisait à l'époque il y avait des propos racistes mais il dénonçait l'homme raciste imbécile de l'époque.
Oui, mais est-ce que les gens sont capables de cette différence-là aujourd'hui? C'est-à-dire qu'à l'époque, quand Yvon Deschamps faisait ce genre de blague-là, il faisait appel à ce qu'on appelle le second degré. Est-ce que aujourd'hui, les gens ont encore cette capacité-là de comprendre l'ironie, le sarcasme et le second degré?
Ben, Pas vraiment, parce que moi, j'avais soumis une série web chez un producteur, et puis, à un moment donné, dans la série web, il y avait un commentaire d'une réceptionniste de clinique qui racontait son aventure à une de ses bosses, et qui disait, ben, j'ai rien compris, parce qu'elle avait un accent, fait que je pouvais pas comprendre ce qu'elle disait, fait que j'ai écrit ça tout croche, tu sais. Et là, c'était ça la réplique, tu sais, c'était pas plus... ça a été le point central de la discussion pendant une heure par rapport au fait que faut pas rire des ethnies, faut pas rire...
Ben, voyons donc!
Oui, mais c'était pas ça, pas tout le propos, là. L'histoire était complètement différente. Ça m'arrive, moi, de pas comprendre quelqu'un qui a un accent à sa rue, là, tu sais, qui me demande de quoi, puis je fais, ça m'est arrivé il y a même pas deux jours.
Mais des fois, il y a des gens qui me comprennent.
Pour que je puisse pas passer, puis ils me parlaient, mais je comprenais rien. Mais c'est pas grave, là, tu sais, c'est pas
raciste, tu sais. Oui, ben écoute, moi, je me fais reprocher mon accent à peu près une fois par semaine.
Quel accent!
Ben, quel accent! Ben, c'est exactement ce que j'allais dire, hein. Quel accent, Michel! Écoute, on va écouter un petit extrait que j'ai trouvé sur la page d'accueil de Comme à TV. On écoute ça.
La raison de votre consultation? Un prélèvement! OK! Prélèvement! Quel genre de prélèvement? Numéro 1, numéro 2... Non, madame, j'ai pas appelé votre numéro. Je demandais à monsieur si son prélèvement, c'était un caca. Donc, numéro 1, numéro 2, numéro 3, if you know what I mean. Ben, numéro 3, là, le numéro 3 qui sort quand on fait un numéro 69.
Je sais pas c'est quoi l'affaire qui sort quand on fait un 69. Excuse-moi.
C'est là d'où tu viens. C'est l'indice que je peux te donner.
Bon, d'accord. OK. Je pense que je comprends. Donc, on comprend que... donc, en fait, aussi, il y a tout le côté de la rémunération, parce que ça peut être problématique. Alors, les artistes qui vont travailler avec toi vont être rémunérés de quelle façon, Michel?
En fait, c'est que les artistes s'autoproduisent, si on veut. Nous autres, la plateforme, c'est un 70-30, c'est-à-dire que la personne qui arrive avec son projet, les 5 séries de 5 minutes qu'ils ont tournées, montées, puis tout ça, ils nous les amènent, on regarde ça, oui, OK, c'est beau, on va mettre ça sur la plateforme, et on met une mise en location, et les gens sont payés à pourcentage à la performance de la location, c'est-à-dire que nous, on garde 30% pour la plateforme pour le bon fonctionnement, et 70% des profits vont aux gens qui ont créé leur série. C'est un paiement en différé, c'est-à-dire que les gens travaillent tous à l'huile de bras au début et sont payés ensuite à la location.
D'accord. Est-ce que les humoristes vont se mettre riches avec Comme à TV?
Je sais pas s'ils vont se mettre riches comme c'était le cas, mettons, pour faire une tournée puis tout ça, c'est sûr que c'est plus payant, là. Ce qui est bien avec Comme à TV, c'est que tu peux créer ton propre contenu, le mettre sur la plateforme, que ça devienne payant, et puis tu peux faire ça le temps que tu veux, puis les séries, ils sont sur la plateforme le temps qu'ils veulent aussi. Alors, moi, je pense que ça risque d'être très payant pour les gens qui vont être là-dessus. Surtout que là, on veut s'étendre à toute la francophonie mondiale. Ensuite, attaquer le côté anglophone canadien, parce qu'ils ont les mêmes restrictions de production d'émissions de télé que nous au Québec. Alors, ça serait une bonne opportunité pour eux de tester du matériel, parce que je suis pas mal sûr que les grands diffuseurs vont venir sur la plateforme voir qu'est-ce qui se fait puis sur quoi ils peuvent copier, c'est sûr et certain.
Ah oui, tu penses que tu vas être...
Comme dans la francophonie mondiale, on veut s'attaquer du côté anglophone aussi. On peut y aller avec hispanophobe.
Attention! Quel beau
lapsus! Bon, j'ai déjà des emails qui rentrent. Je pense que ça, pour les gens, en tout cas pour les coûts de production qui sont nuls, les profits sont de l'ordre d'à peu près 1000%.
Ben écoute, surtout que maintenant, aujourd'hui, avec un cellulaire, avec une bonne technologie, ça devient vraiment...
La démocratisation, je dirais, de la technologie qui fait que tout est possible maintenant. Moi, j'ai les 4 séries que j'ai tournées, je les ai faites avec mon iPhone.
C'est
j'ai
fou,
monté
hein?
ça avec mon laptop à la maison, bien tranquille. Alors, tout est possible.
Bon, une dernière petite question, Michel, parce qu'on le sait, tu en as parlé très ouvertement, tu as même écrit un livre face à face. Comment vas-tu?
Comment je vais? Ah, je vais très oui. bien. C'est très difficile en temps de pandémie.
Voilà.
Mais la pandémie, je te dirais, a fait ressortir le meilleur et le pire de moi-même, c'est-à-dire le pire au niveau de la bipolarité, mais aussi de s'auto-trouver des bonnes... des bonnes solutions pour se remettre sur les tracks. La solution que j'ai trouvée, moi, c'est l'écriture, le montage, et c'est ça, s'occuper le cerveau le plus possible.
Mais au final, entre ce qui a empiré et ce qui s'est amélioré, tu vas bien, tu peux nous rassurer là-dessus, tu vas bien.
Ben, je vais bien, aussi bien qu'un bipolaire peut aller. C'est pas la perfection, là, tu sais. Cette maladie-là, j'ai aucun contrôle là-dessus. C'est comme avoir un ado pas d'allure en dedans de soi, là, tu sais, qui décide de faire ce qu'il veut, là, tu sais.
C'est une belle image.
Je suis toujours en train de garder deux personnes. Moi quand je vais bien, puis moi quand je vais pas bien. Mais la médication aide beaucoup, le travail aide beaucoup, contact avec les autres, je fais beaucoup de discussions aussi avec des amis sur vidéo. Je vais commencer des conférences vidéo le mois prochain avec Marc Gervais, et aussi des conférences éventuellement sur scène sur justement l'équilibre. Comment le maintenir, comment le garder, comment faire, donner des trucs, pas des solutions, mais des trucs. Alors, mais moi, quand je vais mal, je m'en sers toujours pour pouvoir le communiquer pour des gens qui souffrent de la même maladie que moi.
Et c'est pour ça qu'on t'aime. Merci beaucoup, Michel. Et puis j'invite tout le monde à t'envoyer beaucoup d'amour, parce que c'est important, avec la maladie que tu as, de savoir que les gens sont derrière toi, que les gens t'aiment et t'apprécient. Pour tempérer justement tes hauts et tes bas. Et puis aussi, j'encourage tout le monde à aller sur ta plateforme, alors en espérant que je vais encore une fois la prononcer de manière pas trop pire, comme à TV. Merci beaucoup.
Voilà, comme à TV.tv.
.tv. Merci. Ouais.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
En mars 2020, on avait toutes sortes de prédictions économiques plus apocalyptiques les unes que les autres. Un an plus tard, on peut regarder le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. En tout cas, un économiste que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément et je me fie beaucoup à son opinion, Pierre Fortin, qui est chroniqueur en économie à l'actualité depuis 1999, lui a écrit un texte avec un titre vraiment rassurant, vraiment optimiste. La reprise économique s'en vient. Alors, on va lui parler pour qu'il continue à nous expliquer sa pensée. Pierre Fortin, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, ça m'a fait du bien de lire votre texte, Monsieur Fortin, parce que on a vécu tellement d'insécurité économique et financière au cours des 12 derniers mois qu'on aurait pu penser qu'il y aurait un scénario catastrophe. C'est pas du tout ce que vous nous proposez. Vous êtes très optimiste pour une reprise et une reprise vigoureuse. Pourquoi?
Mais c'est parce que les ménages, c'est-à-dire vous et moi, là, les familles et tout le monde, on a eu beaucoup plus d'argent qui est rentré à la maison cette année que ce à quoi on s'attendait. La raison, c'est que le gouvernement fédéral, surtout, a envoyé des chèques de centaines et de milliers de dollars à tous les Canadiens qui lui demandaient. Et finalement, malgré la récession, malgré la baisse de l'activité économique, on en a entendu parler ces jours derniers, les gens sont retrouvés avec plus d'argent dans leur poche que avant la récession, de sorte que leurs revenus ont baissé parce qu'ils ont moins travaillé ou ils ont moins fait d'affaires, si c'est des entreprises, mais le gouvernement leur a envoyé tellement d'argent en compensation, il les a surcompensés, qu'ils se sont retrouvés avec plus d'argent dans leur poche. D'autre part, ils ont moins consommé, évidemment, parce que tout le monde était confiné, soit de façon obligatoire, par exemple, il y a des couvre-feux où on est obligé de rester à la maison, on n'a pas le droit d'aller ici ou là, dans un bar, des restaurants, etc. Et ou encore, on a peur d'attraper le virus et puis on reste à la maison de toute façon. Donc, on peut choisir librement de ne pas sortir. Et donc, on consomme moins. En d'autres mots, on a plus d'argent dans nos poches c'est en 2020 qu'en 2019, et à l'inverse, on consomme moins. Par conséquent, donc, on s'est accumulé de l'argent dans nos comptes de jardin, Banque nationale, etc. Et c'est l'argent qui est là en banque qui attend d'être dépensé dans l'année 2021. Alors, dès qu'on va sortir de la pandémie, qu'on va être vacciné en grand nombre, ben là, il est fort possible que tous ces gens-là, vous et moi, on décide de se défouler un peu puis de dépenser cet argent supplémentaire-là qui nous est arrivé par la grâce de Dieu. Ben pas de Dieu, mais du gouvernement fédéral.
La grâce de Justin, disons ça comme ça. En même temps, on le sait, au Canada et au Québec, le taux d'endettement des ménages est quand même assez élevé. Je pense la dernière fois que j'avais regardé les chiffres, c'était quelque chose comme 150%. Donc, pour chaque tranche de 100 $ qu'on a, on en dépense...
Vous avez absolument raison. Oui.
Voilà, on en dépense 150.
Les ménages sont endettés, mais... les taux d'intérêt sont au plancher, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été si bas depuis 100 ans. Par conséquent, même si, mettons, dans les 20 dernières années ou 25 dernières années, le rapport entre la dette des ménages et puis leur revenu disponible a doublé, mettons, vous parlez de 150%, alors il y a 25 ans, c'était 75%. Donc, effectivement, vous avez raison, la dette a doublé, mais les taux d'intérêt sont trois fois moins élevés. Et ce qui est important pour votre budget, c'est pas la dette comme telle, c'est les intérêts,
c'est ce qu'elle nous coûte.
Les charges d'intérêt que vous avez à payer dessus chaque mois ou chaque année. Et quand on regarde le poids de ces charges d'intérêt-là qu'on a payées, du service de la dette des ménages, ça a baissé, c'était 10% de leur revenu disponible il y a 20 ans, et maintenant c'est seulement 6%. En d'autres mots, malgré le surendettement, cet endettement-là coûte moins cher aux ménages aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et c'est pour ça que, malgré qu'on crée de l'inquiétude à toi et moi en disant « Mon Dieu, on est rendu à 150, 155, 160 », qu'en réalité, il se passe rien et puis les ménages continuent d'avoir des budgets qui leur permettent de joindre les deux bouts.
On a beaucoup entendu parler, surtout au début de la pandémie, les oiseaux de malheur nous annonçaient des faillites à plus finir. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a vu, M. Fortin?
Oui, il y a eu bien des faillites. À peu près le tiers des entreprises ont fait des mises à pied. 40% des entreprises ont eu une chute de leurs revenus de plus que 20%. Et donc, ça a été très dur pour les entreprises, là. Ces gens-là qui gèrent des entreprises, surtout, évidemment, dans certains secteurs qu'on connaît, là, comme la restauration, l'hôtellerie, les loisirs, les spectacles, nos amis dans le monde artistique et culturel. Eux, ils ont vraiment été frappés très durement. Par contre, Le retour de l'économie, si on se met, nous, de notre côté, à dépenser l'épargne forcée qu'on a accumulée dans la dernière année, mais là, il va y avoir un retour des affaires. Peut-être qu'on va aller même au restaurant plus fréquemment dans les 6 derniers mois de l'année 2021. Parce qu'on va se dire, ben là, on va se reprendre,
on va rattraper le temps perdu.
Et là, peut-être que, ben en tout cas, écoutez, là, je vais pas faire de prédiction, là, faut être prudent là-dessus, là, mais donc c'est pas impossible que ça revienne les affaires plus vite que même pour ces gens-là dans les secteurs les plus touchés par la récession.
Rapidement, Monsieur Fortin, vous nous avez parlé, vous avez dit à quel point le gouvernement et fédéral et provincial, en fait, les deux paliers de gouvernement avaient surcompensé.
Oui.
Ce que ça veut dire, évidemment, au bout du compte, c'est que c'est pas très sain pour les finances publiques.
Oui et non. C'est-à-dire, oui, il y a des gens qui ont reçu plus d'argent que normalement on aurait jugé bon de leur envoyer. Cependant, le fait que ça a mis de l'argent dans leur compte de banque, c'est comme il risque d'y avoir un effet favorable décalé, c'est-à-dire dans la deuxième partie de cette année-ci, où ces gens-là vont le dépenser finalement cet argent-là et vont faire tourner l'économie plus vite. D'autre part, les énormes déficits qu'on a encaissés au niveau gouvernemental, surtout au niveau fédéral, hein.
Oui.
C'est 400 milliards presque cette année-là qui a été annoncé par Mme Freeland.
Ça vous inquiète pas, ça?
Oui, c'est ça. Bon, 383, là, c'est possible qu'elle annonce 400 ou plus parce que on a eu encore du confinement ces derniers mois. En tout cas, de toute façon, cet argent-là ne coûte pas très cher au gouvernement fédéral à financer parce que les emprunts, mettons, si on emprunte 400 milliards à un taux d'intérêt qui est peut-être autour de 1%, ben ça leur coûtera pas plus que 4 milliards par année sur un budget de 350 milliards.
Alors, c'est bon. On va se quitter là-dessus, Monsieur Fortin.
Les taux d'intérêt très bas sont un énorme avantage. Pour les gouvernements puis pour les contribuables aussi, évidemment. Et ça va faire en sorte que ce sera pas nécessaire pour eux de nous planter dans une période d'austérité comme on a connu au Québec sous le gouvernement Couillard en 2014 à 2016.
Ben j'aime beaucoup votre optimisme et puis de toute façon si on paye une hypothèque on le sait bien.
C'est du réalisme.
Oui, de la lucidité. Vous avez raison. Alors l'économiste réaliste Pierre Fortin, chroniqueur en économie à l'actualité et professeur émérite de sciences économiques à l'UQAM, toujours intéressant de vous parler et d'avoir votre perspective sur les choses. Merci monsieur Fortin.
Au plaisir madame Desrochers.
Sur une note positive, donc, se termine l'émission aujourd'hui. Merci à Joannie Henry. Merci à William Boivin. On se retrouve lundi. Bonne fin de semaine.
Cube Radio.